deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques, sûrement.
Théâtrales, peut-être.
Inclassables, parfois. Écrit libre.
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 Attention, vous allez entendre en première partie de cette émission des nouvelles concoctées dans les ateliers d'écriture de la HALVEC et à l'atelier Instant de l'Université Permanente. Ambiance noire et polar.
Encaustique, pneumatique, le fric.
Le juin de Camus. François-Xavier tire une rafale de Kalachnikov et fait sauter la serrure de la porte. Il prend le sac de sport caché derrière et sort en courant avec son pote sous les balles. Ils sont repérés. Il tire de nouveau pour se dégager. Il court jusqu'à la voiture et s'enfuit. Le lendemain, lundi 11 mai, rue de Tchécoslovaquie, quartier sud, 16h. Jean-Guy, tu crois que t'as réussi à toucher les deux enfoirés qui ont piqué la cam hier ? J'en sais rien, Hugues Benoît, mais putain, comment elles ont pu savoir où elle était planquée ? On a fait gaffe. Moi, je crois que j'en ai touché un. De toute façon, je vais les buter, pour l'exemple. Avenue Camus, quartier nord, 23h. François-Xavier emmène la voiture volée hier et utilisée pour piquer la cam de la bande des quartiers sud. Puis il y met le feu, elle est imprégnée du sang de son complice, mort cette nuit. Mardi 12 mai, 18h, quartier nord, bar du nord. C'est de la bonne, je te dis, elle n'est pas coupée. Tu vas la goûter et tu reviendras me chercher le reste demain. D'accord. On se voit demain ? L'homme se lève, se dirige vers la sortie. Il reçoit malheureusement la rafale de pistolets mitrailleurs destinée à son interlocuteur. Les tireurs, Hugues Benoît et son copain, s'enfuient dans la bagnole qui les attendait. La cible est manquée. 20h, quartier sud, rue de Tchécoslovaquie. Myriam t'a parlé à quelqu'un de la dope planquée dans la cave ? Jean-Guy, tu me prends pour qui ? On avait dit que c'était un secret, tu crois quand même pas que c'est moi qui... Je crois rien, mais comme tu racontes tout à ta sœur Anne-Sophie, c'est quand même bizarre qu'il savait pour la planque dans la cave. François, Xavier et sa bande sont à l'autre bout de la ville, à des bornes de là, et ils ont fracassé une seule cave directement. Alors ne me prends pas pour un con. C'est ta sœur ou toi qui leur avait dit. Tu es fou, tu m'accuses. Mais c'est mon cousin qui l'a ramené de Suisse. Et je t'ai aidé à la préparer. Alors si c'est pas toi, c'est Anne-Sophie. Tu vivais avec elle avant d'être avec moi. Tu la connais. C'est pas une balance. Non, mais elle est rancunière. Ça va pas, Jean-Guy. Anne-Sophie n'a pas pu faire cela. J'en ai marre d'entendre des conneries. Je retourne chez moi. 21h, chez Anne-Sophie. Myriam, tu m'avais dit de garder le secret. Je l'ai dit à personne. C'est vrai, je t'assure. On n'aurait peut-être pas dû en parler entre nous, mais tu es ma sœur et on n'a pas de secret de toute façon. J'espère que c'est pas toi, Anne-Sophie. Sinon, il risque de te tuer. Bon, d'accord, j'avoue, c'est moi. Mais dis donc, Myriam, quand je vivais avec Jean-Guy, vous n'avez pas couché ensemble dans mon dos ? Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que quelqu'un l'a vu sortir de chez toi juste avant d'aller chez moi. Je l'ai appris la semaine dernière. Et alors ? Alors, tu vois, on a tous perdu quelque chose. J'ai perdu un petit copain et Jean-Guy a perdu son pognon. Tu te rends compte de ce qu'a fait Anne-Sophie ? Oui, je me rends bien compte. Je t'ai dit qu'on avait perdu quelque chose. Mais toi, pas encore. Mais dénonce-moi à Jean-Guy et tu vas perdre une sœur. Oui, j'ai dit à la bande des quartiers nord où était caché le pognon. Mais c'est de ta faute. Vous vous êtes foutu de ma gueule. Moi, je me suis juste vengé. Vous devriez bien rire de moi, pauvre conne que j'étais. Mais pas du tout, Anne-Sophie, on avait même un peu honte. En fait, c'est moi qui l'ai dragué. Eh bien, tu vois, ma petite Myriam, maintenant tu sais tout. On se retrouve comme il y a 10 ans. Tu te souviens, j'avais piqué de l'argent dans le sac de maman. Elle m'a accusé, tu savais que c'était moi, mais tu n'as rien dit. On avait alors fait un pacte de sœurs liées par le sang, unies et complices pour la vie. Mais ce n'est pas pareil. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu as foutu le bordel. Le copain de François-Xavier est sans doute mort. Hugues Benoît lui a tiré dans le dos à 3 reprises. Hier, dans le bistrot, il y a eu 1 mort et 3 blessés. Ils ont raté François-Xavier. Mais je connais Jean-Guy. Il va encore essayer de le descendre. C'est un fou. Ouais, ben, t'avais qu'à pas me piquer mon mec. Alors dénonce-moi et tu perds ta sœur ou on continue notre pacte de sang qui porte bien son nom. Mercredi 13 mai, quartier Nord, avenue Camus, 17h. Jean-Guy entre chez François-Xavier et le tue d'une balle en pleine tête. 20h, quartier Sud, appartement d'Anne-Sophie. Je t'avais dit qu'il continuerait à les descendre, Anne-Sophie. Tu as entendu, il vient de tuer François-Xavier, 1 mort de plus, et cela ne te fait rien ? Mais tout est de ta faute, j'ai peur, je suis sûr que la bande des quartiers Nord va se venger. Ils ont des armes aussi, ils pourraient me tuer, je suis la copine de Jean-Guy. Toi, tu ne risques rien puisque tu leur as donné la cachette pour le cannabis. Tu vois, Myriam, on est dans la même situation. Soit Jean-Guy me tue, soit les potes de François-Xavier te tuent. Myriam pleure, Anne-Sophie la prend par les épaules et lui dit « Je vais aller voir Jean-Guy, ça doit s'arrêter, mais ne crains rien, il ne va rien t'arriver, fais-moi confiance. » 20h, appartement de Jean-Guy. Anne-Sophie, qu'est-ce que tu me veux ? Juste te parler, mais peut-être es-tu occupée. Non, vas-y, entre, je fumais un pétard. Tu voulais me parler de quoi ? Myriam m'a avoué que tu couchais avec elle quand on était ensemble, c'est vrai ? Anne-Sophie, c'est pas le moment, je flippe. J'ai buté François-Xavier cet après-midi et je croyais que c'était les flics qui sonnaient à la porte tout à l'heure. Tu m'as fait peur. Mais je viens de me faire un super joint. T'en veux ? Tu sais bien que non. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce flingue, Anne-Sophie ? Je vais te buter. On croira que les copains de François-Xavier se sont vengés. Personne ne va penser que c'est juste de la jalousie. Puisque tu préfères Myriam, alors adieu. Jeudi 14 mai, en tête du journal Ouest-France, la guerre des gangs continue. Une nouvelle victime découverte morte dans son appartement. Comme tout semble indiquer un règlement de compte entre trafiquants, l'enquête est close.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Le blond, la brune et le truand. 15h. À l'heure dite, vlam, 2 armoires à glace se télescopent et se fracassent sur la porte d'entrée du vieux bistrot. Chacun veut sa priorité. Chapeau enfoncé sur la tête, lunettes noires, blouson cuir et Santiago, ça fait trembler les passants qui s'écartent prestement. « Lâche la poignée, loser !» dit le blond. « Cause toujours, larbin, c'est moi le boss !» Un pas vide, bâton à la main, le patron du bar arrive. Un coup sur le dos des 2 gars, le tarif habituel. D'un coup de pied aux fesses, il les pousse à l'intérieur et retourne à son zingue. Les 2 lascars redressent leur fierté. Ils squattent le fond du bar, assis face à face, habillés dedans comme dehors, c'est le rendez-vous des courants d'air ce coin. Jamais personne à cette heure, sauf la nana reliée à son ordinateur. La serveuse connaît ses habitués, un thé à la brune, une bière aux 2 types. Le boss boit une gorgée, d'une voix sourde il questionne. « Bon, allons gamin, les infos sur la vieille d'Auteuil, famille, voisins, horaires ?» « Cool, Raoul !» murmure le blond. « Oh, je suis ton boss, tu te rappelles ?»« Ok, bon. Un immeuble, trois étages, quatre appartes. Une meuf, deux vieux, des chats. La mamie au rez-de-chaussée, sa fenêtre donne sur la rue. Ouais, ça fait une sortie au cas. C'est quoi la serrure? Faut un passe? Il y a une alarme? Refais pas le coup du verrou relié à l'alarme qu'a tout fait foirer. Les deux Caliborgnons se toisent. Depuis leur sortie de prison l'an passé, ils font des coups ensemble. Engoncé dans son col, le boss s'agace de l'air goguenard de son acolyte. Sûr, il la lui fait à l'envers. T'feu, pon mouron, pas de mouchard sur la porte, juste une clé. Tiens, lave-la. Demain, je repère à l'intérieur. Elle ouvre sa fenêtre à 9h. Réglée comme du papier à musique, mamie. Et pas farouche. Elle salue tout le monde. Un bonbon à la violette, toujours bien attifé. Manteau, voilette, chignon, renard autour du cou, bijoux. Ah, il y a de l'oseille. T'es con comme une valise sans poignet, c'est pour ça qu'on l'a repéré. Mais ouais, quelle cave. Bon, à 14h, elle part avec sa roulante faire ses courses et à la poste. Elle revient au bout d'une heure. Marche pas vite, la violette, avec ses bottines et son dos voûté. Elle met encore des talons. Parce qu'elle sera tatine, comme ma mère, assène Raoul. Ouais, ma grand-mère aussi, mais ça lui fout des crampes aux pieds. Oh mec, on est au taf. Bon, la rue. Double sens? Tu te rappelles, on s'est fait chourer à cause d'un sens unique. Une prune à 100 balles et le coffre vide des bourges en prime. Ça va là, une petite rue en double sens. Des besogneux qui bossent toute la journée. Pas de magasin ni de concierge. C'est beau, c'est tout. Mamie ferme ses volets à la nuit, 17h. C'est l'hiver. Après, pas un chat, pas de rôdeur, pas de cogne. Ah, je m'emmerde. Bon, j'ai rancard avec le borgne. Laisse tomber, il est chelou. Mais pas la rate au courbouillon, c'est mon frelo, il est ouf. T'as pas intérêt à me doubler avec ce charron. Casse-toi, Pignouf. Prends du repos, la nuit va être rude avec mamie. Le blond s'en va à reculons. Sur le pas de la porte, il consulte l'horloge et prend la direction d'Auteuil. Le boss l'observe à travers la vitrine. Hors de portée de sa vue, le blond bifurque vers les Champs-Élysées. Magasin de luxe, touristes, étrangers, flâneurs, c'est bientôt Noël. Il y a de la thune à se faire. Il rejoint son vieux pote le borgne. Parfait, monsieur tout le monde. Le duo est rôdi. Il arpente l'avenue bondée à l'affût du bon coup, du portefeuille des insouciants près du bras zéro de Maranchot, du morlingue du naïf qui bagnaude. Les deux escrocs maîtrisent l'art du passe-passe. L'un amuse la galerie, l'autre pique les sacs, subtilise les articles de luxe, dégrafe les breloques. La météo est propice, l'affaire juteuse jusqu'à la nuit noire. Le blond a oublié mamie. Elle, pendant ce temps, vit sa journée et d'autres choses encore. « Bon Dieu, j'ai zappé, merde !»« Quoi, grave ?»« T'inquiète, mec. À demain matin. Ouais, à plus. » Le blond n'entend plus, il est déjà dans le métro. Il rejoint sa planque camouflée par une caisse d'oranger sous le porche en face de chez mamie. Jumelles, couvertures, bonnets, gants, panoplie complète du guetteur frigorifié. Dans la rue glacée, voiture stationnée cul à cul, façade au volet clos, pas un ray de lumière, ni âme qui vive. Comme d'habitude, le blond repère sans bruit, entre dans le corridor sans allumer, scrute l'appartement à travers les fentes de la porte. Tout est à sa place. À gauche, la fenêtre donnant sur la rue, un trépied devant. De la pièce sombre s'échappe une Roomba endiablée, sacrée mamie. Odeur de soupe, elle doit dîner. À l'étage, une porte s'ouvre, des pas dans l'escalier, le blond se carapate, le vieux dépose sa poubelle et remonte. Le blond revient, voit mamie se lever, entend sa chasse d'eau, sa lumière s'éteint, la lueur bleutée de sa télé s'allume. Copier-coller d'hier, mamie et ses voisins. Il y croit, le blond. La vieille rit, en douce. Le blond retourne à sa planque, un sandwich, une bière, calfeutré dans son antre, il pionce comme un bébé. L'astre hivernal, lui. Les volets cognent les murs, le blond s'éjecte. Merde, tombé du lit, mamie! Emmitouflé jusqu'aux yeux, il passe devant sa fenêtre où elle prend l'air. Elle le salue, il opine du chef, yeux à l'intérieur et s'éloigne à vive allure. Le froid pique, Un café brûlant l'attend chez son pote. La mamie braque le trépied vers l'homme pressé, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Arrivé chez son cop, le blond boit son café. Ça gnôle, il compte leur magot. Demain, retraite au soleil. 15h, le blond rejoint le boss au bistrot. Ils avalent leur bière, font des plans sur les photos, décident. Ok, demain, 13h, sous le porche, check. Ok, boss, check, j'y vais. Le boss finit sa bière, le jour décline, les besogneux emplissent le bar. Les sons festifs envahissent l'espace, le boss en a ras la casquette. Se lève, bouscule l'ordinateur de sa voisine qui sent la violette. Le boss fait son poli et s'excuse. « Ça va !» dit la fille en se levant. Jusqu'alors tranquille dans son coin, elle quittait son écran pour de brefs coups d'œil. Aucun des deux arsous ne lui prêtait attention, trop occupés à leur affaire. Le bandit et la fille sont saisis de froid sur le pas de la porte. Lui remonte son col de laine rêche, elle son vison doux sous ses doigts bagués. Ces milliers de lumières au crépuscule, c'est beau Noël. Bah, j'y crois plus au Père Noël. Bon, ça va votre tour ? Ah, je sais me défendre. Bonsoir monsieur, à demain. Bonsoir mademoiselle. Le boss sourit, demain c'est le jour. La nuit givre Paris. Mamie ferme ses volets. Le blond, content de sa calme du jour, est en faction et s'endort avec la rumba. Réveil en fanfare, les volets claquent de partout. Trois vieux à leur fenêtre hument l'air matinal. Les besogneux sont partis, le blond dégèle son cerveau à la gnôle. 13h, le boss est sous le porche. Dernière filoche, dans la rue, un mec téléphone, des amoureux se bisonnent dans une voiture. 14h, mamie sort. Ponctuelle, guillerette, salue le téléphoniste, sourit aux amoureux trop occupés. À peine a-t-elle disparu, les deux malfrats se précipitent dans l'appartement tiré au cordeau. Peau butin, 1000 euros sous un pull, camé dans un pot, perles de Tahiti sous le lit, gourmette sous le tapis, argenterie sous le canapé. Elle sème la vieille. Et dans le frigo, une bière. Oh, le sac est plein, on se casse. Sur le palier, un comité d'accueil. Le type de la poubelle, les amoureux, le téléphoniste, une rousse. Les deux escrocs s'exclament. Ça sent la violette. La rousse arbore sa perruque. Allez les margoulins, appelez-moi commissaire. Votre collègue est sous les verrous. Quel collègue ? Crie le boss. Vous vous expliquerez au commissariat.
FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
Vous avez entendu Le joint de Camus de Jean-Luc Nonazzi, Le brun, le blond et la vieille de Claire Dovy. Et voici en seconde partie notre série Un fait d'actualité qui questionne. L'association SOS Discrimination et les ateliers d'Eva Luna ont proposé aux auteurs des ateliers d'écriture de la HALVEC et à ceux de l'atelier Instant de l'Université Permanente d'écrire à partir de faits d'actualité qui questionnent. Soit un fait social, soit un fait politique qui parle d'injustice et de discrimination, un fait autre qu'un fait divers, un fait dont on ne parle pas ou peu dans les médias. Une fiction n'est ni un témoignage, ni un reportage. Il est possible de créer ou recréer des personnages, d'inventer des décors, d'imaginer des sentiments. L'écriture de fiction a de multiples intérêts. Pour ceux qui les lisent ou les écoutent, ces histoires parlent plus directement au cœur que de longs discours et restent plus intensément en mémoire. Et si les auteurs s'éloignent de la véritable histoire, on s'aperçoit souvent que de l'imaginaire surgissent des vérités auxquelles la raison n'a pas accès. L'essentiel étant bien sûr de distinguer le fait, ce noyau dur dont nous nous sommes inspirés, de la fiction. Pour le mois de novembre, il a été proposé à ceux qui le souhaitaient d'écrire à partir de ce fait qui nous questionne. Vincenzo Vecci est passé devant la cour d'appel d'Angers le 2 octobre 2020. Militant altermondialiste italien, Vincenzo Vecci a été successivement condamné à 12 ans et à 4 ans de prison pour avoir participé aux manifestations anti-G8 de Gênes en 2001 et à une manifestation contre l'extrême droite à Milan en 2006. Il est réfugié en France où il travaille. Deux mandats d'arrêt européens ont été lancés contre lui pour obtenir son extradition vers l'Italie. Vous allez entendre une nouvelle inspirée par l'histoire de Vincenzo Vecci.
FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
Vincenzo Vecci. Monsieur Vincent Papal? Oui. C'est bien vous, Vincenzo Vecci? Oui. Je savais qu'un jour il viendrait. Mais ce matin-là, je ne les avais vraiment pas prévus. Il faisait beau, nous avions tout juste commencé à mettre en place le travail du jour. Paul transportait son échelle en sifflotant. Jean préparait l'enduit, je rassemblais les outils. Le chantier était bien avancé. Nous finirions cette semaine. « Qu'est-ce que c'est que cette bagnole ?» a crié Paul du haut de son échafaudage. J'ai levé la tête pour voir de quoi il parlait. Une grosse voiture noire s'égarait devant le portail. Deux hommes en sont descendus. J'ai aperçu M. Louis s'avancer vers eux. Il m'a semblé qu'il répondait à leurs questions. J'ai vu sa main indiquer le chantier. Et là, j'ai immédiatement compris. Je n'ai pas posé ma truelle, pas un seul instant pensé à fuir. Ici, je suis chez moi, je me sens protégée. J'ai juste pensé à Maria. Je me demandais comment la prévenir, qu'elle ne m'attende pas pour déjeuner. Les hommes se sont avancés vers nous. Jean a dit « Les gars, on dirait des flics », en me regardant. Jean connaît mon histoire. Il sait que j'ai changé de nom, que j'ai été longtemps en prison, que je suis réfugiée ici depuis plus de 7 ans. Et il sait aussi qu'en France, on m'a innocentée. Il fait partie du comité de soutien qui veille à ce que je ne sois pas extradée vers l'Italie. Il a marché vers eux, avec moi, en silence. « Les voilà », a-t-il commenté, comme pour me prévenir qu'il savait. Puis il a ajouté une main sur mon épaule. « Nous sommes avec toi, Vincent. » « Vincenzo Vecci ?» a répété le plus grand des deux flics. Comme s'il ne pouvait pas vraiment le croire. « C'est bien vous ?» Que lui avait-on raconté à mon sujet ? Que j'étais un dangereux terroriste, un anarchiste violent, casseur de vitrines, pilleur de banques? Ou bien peine-t-il à croire que derrière cet ouvrier tranquille puisse se cacher un tel personnage? Peut-être sait-il que je vis ici depuis des années, que j'ai une famille et de nombreux amis, et que je n'ai jamais fait de mal à personne. Je remarquais ses grosses mains molles. « Police », a-t-il ajouté en me montrant sa carte. « Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » Je le regardais intensément. Il avait un visage joufflu, presque bon enfant. « Il doit être brave », ai-je pensé. « Peut-être même amusant en famille. » Il fait son devoir avec une certaine conviction. J'ai fait « oui » avec ma tête, sans dire un mot. L'autre était plus jeune, mal à l'aise. Il se tenait légèrement en retrait et se mit à répéter « Veuillez nous suivre !» cherchant à prendre un ton autoritaire qui ne lui allait pas, cherchant à bomber le torse. Il avait un regard sombre, mais quand je le croisais, il baissa les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Paul en descendant vers nous. Je n'ai pas répondu à la question de Paul. J'ai haussé les épaules. C'est Jean qui a dit tranquillement « Rien, je t'expliquerai. » « À tout à l'heure, » a-t-il gentiment murmuré lorsque nous sommes passés devant lui. Entre les deux hommes, je m'appliquais à marcher le plus lentement possible. En même temps revenaient à moi les images de cette journée de 2001 à Gênes. Les cris, les tirs, les grenades, les jeunes gens courant dans tous les sens, la violence des charges policières, les hommes casqués s'acharnant sur le corps étendu par terre d'un jeune manifestant. Je revois les visages ensanglantés, l'expression de terreur dans les yeux de cette jeune fille arrêtée. Nous étions partis calmement pour protester contre ce nouveau sommet des puissants, ce G8, cette mascarade pour justifier le pillage de la planète par les pays les plus riches. Réfugiée en France, j'ai pu échapper au procès injuste qui m'accable en Italie. J'ai encore confiance. Je sais que mes défenseurs ont des arguments solides et qu'ils ne me laisseront pas partir facilement. Quand nous arrivons au niveau du bureau de Monsieur Louis, il s'adresse à moi avec un petit sourire triste. « Revenez vite, Vincent. Nous avons besoin de vous pour terminer le chantier. » Je travaille avec Louis depuis plusieurs années. Je sais qu'il m'apprécie et qu'il me défendra si on l'interroge à mon sujet. Il me tend ma sacoche et ma veste. Les policiers s'arrêtent un instant. « Une simple vérification, » poursuit Monsieur Louis, rassurant. J'acquiesce et lui remets ma blouse de travail. « Merci de prévenir Maria. » Tandis que nous arrivons au niveau de la voiture, je vois en arrière mes camarades, immobiles, arrêtés dans leurs gestes. Et je vois leur regard interrogateur. Le jeune flic m'ouvre la portière arrière et me fait signe de monter. Je crois percevoir un léger tremblement dans sa main. Il est si jeune, innocent encore. Ou bien sait-il vraiment qui je suis ? Lorsque la voiture démarre, je repense à Maria qui va m'attendre. Je vois ses doigts fins soulevant sa lourde chevelure. Maria, qui me regarde avec tendresse, et demande « Je veux tout savoir de toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Et pourquoi ?»« Oui, Maria, je vais tout te dire, à toi. Mais à toi seulement. Je m'appelais Vincenzo Vecci. »
Vous venez d'entendre Vincent, écrit par Cécile et lu par Anaïs Frappard. Les nouvelles de cette émission ont été lues par Michel Frappard, Claire Dovy. Mercredi 25 novembre, vous entendrez d'autres nouvelles ambiances noires et polaires et des nouvelles de notre série « Un fait qui questionne des fictions ». Série consacrée en ce mois de novembre à Vincenzo Vecci.